Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de La Vie Devant Soi. Comme tous les jours, nous avons une heure pour faire ensemble le tour de l'actualité santé, forme et bien-être. Et aujourd'hui, tout particulièrement, on va s'intéresser à notre dos. Lombalgie, tour de rein, lumbago, là je vous parle de quelque chose que vous connaissez bien parce qu'on y a tous eu droit. Et pour certains, le mal de dos est devenu chronique. Alors jusqu'à présent, mal de dos égale repos, allongé, tranquille, couché, à la maison. Mais vous allez voir que le meilleur traitement désormais, c'est le mouvement. On en parle avec nos deux invités, le docteur Florian Bailly, médecin rhumatologue et spécialiste de la douleur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Xavier Dufour, kinésithérapeute. Bonjour messieurs.
Bonjour Isabelle.
Oh bah, quel élan. Allez, bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour Isabelle.
Ah, j'ai l'impression d'être à l'école. Ah, je me suis dit, si on commençait comme ça, je la sentais pas bien l'émission. Hein. Au sommaire également du changement. Alors aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, désormais tous les jours, vous allez retrouver le docteur Gérald Kierzek dans l'émission Bonjour la France de Daphné Burki de 10h à midi, ce qui ne l'empêchera pas bien sûr de revenir nous voir souvent dans La Vie Devant Soi. Pas de changement en revanche pour Anne Cazobon. Bonjour Anne.
Namasté.
Alors vous êtes toute chose depuis que l'on vous a quitté vendredi soir. Expliquez-nous tout ça.
En tout cas, la vie peut nous enseigner n'importe où et pourquoi pas dans la fosse d'une salle de concert. Si, si, aujourd'hui, je vous parle de l'importance de prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive et à ce que j'ai vécu vendredi soir à Bercy.
Pour en savoir plus, rendez-vous à 4h moins 5. N'hésitez pas à nous suivre sur Europe 1, sur europe1.fr, en direct ou encore en podcast, et bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux, le hashtag LVDS ou encore Facebook. La vie devant soi du lundi, c'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
Comme tous les jours, on commence par le à la une. Et à la une, aujourd'hui, cette info incroyable qui nous vient des États-Unis. Un service de réanimation d'un hôpital de Floride, au vu d'un tatouage sur le torse d'un patient et qui disait « ne pas réanimer », a effectivement pris la décision de ne pas le réanimer. Alors, en deux mots l'histoire, le patient de 70 ans est arrivé inconscient à l'hôpital sans aucun papier sur lui. Il souffrait de troubles respiratoires graves et avait un taux d'alcoolémie élevé. Seul élément distinctif, le fameux tatouage, donc ne pas réanimer, suivi de la signature du patient, également tatouée sur le torse. Alors, fidèles à leur serment d'Hippocrate, les médecins ont décidé dans un premier temps de réanimer le patient, mais ils étaient quand même dans le doute à cause du tatouage, donc ils ont préféré appeler le comité d'éthique de l'hôpital, qui leur a conseillé de respecter le message. L'état du patient s'est donc dégradé et il est mort pendant la nuit. Entre-temps, on avait pu l'identifier, on avait donc retrouvé son dossier médical dans lequel figurait effectivement sa volonté de ne pas être réanimé. Une histoire incroyable où un tatouage fait loi. On en parle cet après-midi avec le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et chef du SAMU 93. Bonjour professeur.
Bonjour.
Ce qui s'est passé en Floride, peut-il se passer en France ?
Non, certainement pas. Même dans le cadre de la loi, même s'il existe des directives anticipées du patient, dans le cadre de l'urgence vitale, on réanime toujours. L'urgence vitale prime. Dans le cadre de l'urgence vitale, et c'est d'ailleurs écrit dans la loi, priorité est aux soins. Donc le SAMU, les urgentistes, quand ils voient un patient, même avec un tatouage, ne pas réanimer, ce qui est une chose qui est peu probable en France, mais même avec un tatouage de la sorte, les soins seront prodigués et la réanimation sera débutée.
Imaginons que vous ayez un patient qui ne souhaite pas être réanimé. Clairement, c'est sa volonté. Est-ce que le fait d'avoir une carte sur lui, une lettre d'intention, ça peut suffire à vous éclairer ?
L'urgence vitale prime et, encore une fois, on a besoin de temps pour analyser la situation. Encore une fois, c'est une décision collégiale entre avec plusieurs médecins, les proches, le patient lui-même, pour qu'au final, le médecin décide ou non éventuellement de limiter des thérapeutiques actives. Vous savez, dans l'urgence, les soins, on les prodigue très rapidement. Les décisions se prennent à la seconde près. Par exemple, lors de la réanimation d'un arrêt cardiaque ou lors de la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral. Les décisions, elles sont minutées. Et c'est pas pendant ce temps qui est compté en minutes, voire en secondes, que l'on peut prendre des décisions de limitation de thérapeutiques actives.
Est-ce qu'il y a un âge au-delà duquel vous ne réanimez plus ?
Non, jamais. Plus on est âgé, bien sûr, plus on a de problèmes de santé. Mais en aucun cas, l'âge est un facteur qui nous permet à basculer vers une décision de limitation des thérapeutiques actives ou au contraire de maintenir le patient en vie. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, un patient qui est jeune mais qui a une maladie dont on sait que l'issue va être complètement fatale. Par exemple, un cancer généralisé en phase terminale ou une maladie neurologique dont on sait qu'on n'a aucun traitement actif et efficace, ce patient peut être jeune. À l'inverse, il y a des patients âgés pour lesquels ils ont un état physiologique extrêmement conservé, qui font un accident qui peut être réversible, comme un accident vasculaire cérébral, pour lequel, au contraire, on va plutôt privilégier des thérapeutiques actives parce qu'on est sûr d'avoir un certain pourcentage de succès. Donc vous voyez bien que l'âge n'est pas du tout un facteur qui conditionne nos décisions.
Merci pour toutes ces précisions. Merci professeur Frédéric Hanel. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et chef du SAMU 93. Alors cet après-midi, un thème, on va parler de la lombalgie, 10 vertèbres en bas de la colonne vertébrale qui parfois nous font un mal de chien. Lombalgie chronique ou lombalgie tout court, quels sont les bons réflexes à avoir ?
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Michel Fugain avec « Oh que j'ai mal au dos » parce que bien sûr cet après-midi on va parler de notre dos, on va parler de lombalgie, on va parler avec nos deux invités, le docteur Florian Bailly, médecin rhumatologue et spécialiste de la douleur à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et également à nos côtés Xavier Dufour, kinésithérapeute. Alors je pense qu'on a tous vu cette énorme campagne de communication de l'assurance maladie, il y en avait sur les abribus, sur les bus eux-mêmes, avec ce slogan « Mal de dos, deux points, le bon traitement, c'est le mouvement ». Je pense que c'est la première fois qu'on assiste à une campagne d'une telle ampleur. Est-ce que le mal de dos, c'est vraiment devenu l'ennemi public numéro un de la santé ? Florian Bailly, c'est
Bonjour.
Le médecin qui prend
donc,
la première parole.
Voilà, donc je suis effectivement médecin rhumatologue. Et donc, le mal de dos, c'est effectivement un problème qui est très très fréquent avec effectivement beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, chose que l'on expérimente quasiment tous. Mais après, pour certaines personnes, il peut y avoir des douleurs du dos qui sont uniquement là pendant peu de temps, pendant quelques jours. Mais pour d'autres personnes, le mal de dos peut persister, peut devenir chronique avec un vrai retentissement. Et donc, pour toutes ces personnes-là, globalement, à la fois pour éviter que le mal de dos revienne, mais à la fois aussi pour pouvoir prendre en charge les gens qui ont des douleurs au niveau du dos de manière un peu récidivante ou chronique, effectivement, le traitement est le bon mouvement, mais je pense qu'on va en parler un peu plus.
Alors là, on parle des 5 vertèbres du bas de la colonne vertébrale, c'est ça ?
Alors effectivement, au niveau quand on parle du dos, de lombalgie, donc parfois on parle aussi de tour de rein par exemple, ou le genre de choses que l'on entend, globalement on parle au niveau du bas du dos, donc ça comprend effectivement les 5 vertèbres au niveau lombaire, donc les 5 dernières vertèbres, mais il y a aussi 12 vertèbres au niveau dorsal et puis des vertèbres au niveau cervical. On peut aussi avoir des douleurs qui soient au niveau cervical par ailleurs, ou alors des douleurs musculaires au niveau du dos,
donc
du milieu du dos.
Donc on peut avoir partout, tout le long du dos.
Effectivement.
Mais là, aujourd'hui, on va parler spécialement de cette lombalgie parce qu'il y a du nouveau. Avant, on nous disait du repos, vous bougez plus, vous restez tranquille à la maison couchée. Alors que là, vous allez nous expliquer tous les deux pourquoi il est intéressant de se mettre en mouvement et de reprendre le plus vite possible une activité sportive. Quand on a préparé cette émission Xavier Dufour avec vous, vous nous avez dit « j'en ai marre qu'on dise mal du dos égale mal du siècle ». C'est pourtant ce qu'on entend partout.
Effectivement. C'était le mal du siècle déjà au siècle passé. Depuis, nous avons changé de siècle et même changé de millénaire. Il va falloir changer de mal du siècle. Donc, il y a un moment où nos pratiques doivent évoluer, nos comportements doivent évoluer. Si beaucoup de gens ont mal au dos, beaucoup de gens ont une angine, beaucoup de gens ont une grippe, hein, 100% des gens auront une grippe dans leur vie et on n'en fait pas un plat. Oui. Donc le mal de dos...
On se plaint trop donc sur vous ?
Non, on se plaint à juste titre. On se plaint parce que ça va pas bien, mais si on le prend bien en charge, ça doit passer vite. Et du coup, avoir mal au dos, si c'est bien pris en charge avec une bonne démarche thérapeutique et une bonne rééducation, ça doit passer et ça ne doit plus revenir, ou très peu. Il restera des cas chroniques, mais ça ne doit pas être un fléau comme on le raconte, ou le mal du siècle comme on raconte. Ça doit être bien pris en charge et bien traité.
Alors on va dire que les lombalgies, que le mal du dos chronique dont nous allons parler tout à l'heure, ça concerne pas grand monde. Je crois que c'est 5 à 10% de la population. Puisque vous êtes tous les deux dans le studio, est-ce que vous représentez le parcours santé du patient qui a mal au dos ? C'est-à-dire en 1, je vais chez le rhumato, en 2, il m'envoie chez le kiné. Et le médecin généraliste, alors c'est même plus la peine d'y aller ?
Alors, en première intention, la première personne qui, dans les professionnels de santé qui interviennent, est bien sûr le médecin généraliste en première intention. Parce que la prise en charge au début est une prise en charge générale médicamenteuse pour pouvoir, par exemple, prendre des médicaments contre la douleur, diminuer les douleurs au niveau du dos, puisque la plupart du temps, le mal de dos disparaît au bout de quelques jours. Et donc, ça peut être amélioré par des médicaments. Donc, la première prise en charge est bien sûr le médecin généraliste. Mais pour un certain nombre de personnes, pour certaines personnes, le mal de dos peut persister. Et dans ce cas-là, le généraliste avec les médicaments ne permet pas une amélioration suffisante. Et donc, il peut y avoir d'autres prises en charge qui peuvent être réalisées. Par exemple, le médecin généraliste peut prescrire de la kinésithérapie pour pouvoir prendre, prendre en charge le problème de mal de dos. Par exemple, notamment justement pour pouvoir redonner un peu plus de mouvement, pour pouvoir faire des exercices par exemple.
Pourquoi est-ce qu'on a mal dans le bas du dos? Est-ce que c'est par exemple parce qu'on est en surpoids et que ça pèse trop sur notre colonne? Non, les deux me font non, pas ça. Alors on va éliminer tous les facteurs. Si je suis un peu potelé, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte.
Alors je vais vous dire non comme ça de manière un peu péremptoire, mais je m'appuyais sur une méta-étude de 36 000 cas où il est montré que oui, il y a des obèses chez les lombalgiques, mais il y a aussi des gens tout à fait normaux et voire des gens maigres. Et en fait, l'indice de masse corporelle de la population lombalgique est strictement superposable à l'indice de masse corporelle de la population non lombalgique.
Donc le surpoids n'est pas en compte. Est-ce que le stress peut jouer un rôle? Souvent on dit « Ah, j'en ai plein le dos, j'en ai marre, c'est trop lourd, c'est trop dur ». Est-ce que là, c'est pas quelque part une image qui nous fait prendre conscience que le stress nous fait mal au dos?
Alors oui, le stress peut avoir un lien avec les douleurs au niveau du dos. Quand on a des douleurs au niveau du dos, on pense tout de suite aux problèmes de vertèbres ou de disques, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi les douleurs du dos qui ont aussi d'autres origines, notamment au niveau des muscles. Et c'est évident que si on est stressé ou s'il y a des choses qui vont nous perturber, on peut aussi avoir des muscles qui vont plus se contracter. Et donc, à la fois, ça peut à la fois amener un peu plus de douleurs du dos et aussi et surtout, le stress peut faire que le mal du dos aigu peut rester et on a du mal à l'enlever avec le stress qui persiste.
Dans une lombalgie, c'est la vertèbre qui ne marche plus bien.
Alors,
c'est quoi?
C'est pas un problème uniquement de vertèbre. Même quand on a des douleurs du dos, même importantes, en soi, le dos, il est solide. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que c'est pas tout à fait instinctif. Quand on se dit la douleur, on se dit il y a un danger quelque part, peut-être c'est la vertèbre qui est cassée. Quand on a une douleur au niveau du dos, la vertèbre n'est pas cassée ni fragile, elle ne dysfonctionne pas. Donc les douleurs au niveau du dos ne sont pas uniquement des problèmes vertébraux, il y a une part musculaire, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour les douleurs, ce n'est pas juste un problème de vertèbres.
Alors dans un instant, on va continuer à parler de lombalgie avec les chiffres impressionnants donnés par l'assurance maladie. Tout cumulé, la lombalgie coûte 661 millions d'euros par an. Autant dire que ce serait quand même pas mal qu'on trouve des solutions pour prévenir au lieu de guérir. On en parle après les Fugees.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Pourquoi les médecins nous tapent-ils dans le dos?
Ils nous tapent dans le dos.
Pour nous faire tousser.
Ah, pour nous faire tousser,
hein,
oui, d'accord.
C'est pas ça?
Oui.
Non.
Un petit clin d'œil à Philippe Vandel dans la matinale de Patrick Cohen. Pourquoi les médecins nous tapent-ils dans le dos? Je suis pas sûre, quand on vient vous voir, docteur Florian Bailly, que vous tapiez dans le dos des patients, parce que déjà qu'ils ont mal, c'est peut-être pas la peine de leur en rajouter. Je rappelle que vous êtes donc rhumatologue et spécialiste de la douleur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On est également avec Xavier Dufour, qui est kinésithérapeute. Comment ça se présente, une colonne vertébrale? C'est entre chaque vertèbre, il y a des disques. C'est quoi l'épaisseur et comment tout ça va vieillir?
Alors, effectivement, quand on pense le dos, on pense à la colonne vertébrale, mais il n'y a pas uniquement la colonne vertébrale. Donc, il y a effectivement des vertèbres. Donc, si on parle des vertèbres lombaires, il y a 5 vertèbres lombaires. Entre chaque vertèbre, il y a des disques qui ont en quelque sorte une sorte de rôle un peu d'amortisseur. Ça, c'est sur la partie en avant de la vertèbre.
C'est grand comment? Un disque, au point de vue
alors,
comme épaisseur?
Une vertèbre fait environ 3 cm et puis un disque fait moins d'un centimètre. Mm-hmm. La hauteur des disques varie en fonction de chaque niveau, donc il n'y a pas une seule hauteur définie, mais c'est une faible hauteur globalement. Et c'est parfois, quand on parle de pincement discal ou ce genre de choses-là, c'est le disque qui est un peu moins haut. C'est ce qui peut parfois arriver et qui n'est pas quelque chose qui pince d'ailleurs. Le terme pincement discal qu'on entend parler très souvent, il n'y a rien qui est pincé entre guillemets. Mais donc, il y a à la fois la vertèbre, il y a le disque également, et puis à l'arrière, il y a d'autres parties, il y a ce qu'on appelle les articulaires postérieurs, c'est des petites articulations plutôt derrière la vertèbre. entouré de tout ça, il y a pas mal de ligaments tout autour, qui peuvent aussi être une cause de douleur d'ailleurs. Il y a des ligaments, et à côté et autour encore, il y a différents muscles qui sont là justement pour pouvoir tenir le dos. Et donc il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer les douleurs.
En vieillissant, est-ce que nos disques rétrécissent ?
Oui.
Est-ce que c'est pour ça que plus on vieillit, moins on grandit, voire on rétrécit ?
Alors, c'est effectivement les disques qui perdent de la hauteur. C'est une des choses qui explique que, effectivement, quand on pouvait, quand on a 20 ans, on mesure 1m75 et puis quelques années après ou beaucoup d'années après, effectivement, on perd 2 cm, 1 cm ou 2. C'est lié en partie effectivement au disque, c'est effectivement. Pour autant.
Ça ne joue pas un rôle dans la lombalgie. C'est parce qu'ils sont moins épais qu'ils sont plus fragiles.
Alors, pas forcément, non. Déjà, ils ne sont pas plus, forcément plus fragiles. Et, globalement, un disque peut être plus, avec une hauteur un peu moins importante sans forcément donner des douleurs.
Alors là, on part du principe que tout va bien, sauf que, Xavier Dufour, un jour, ça ne fonctionne plus bien. Alors, pour m'expliquer pourquoi ça pouvait dysfonctionner, vous m'avez raconté l'histoire du portail.
Exactement. Isabelle.
Racontez-moi l'histoire du portail.
L'idée, c'est de comprendre une des causes de la douleur, c'est la raideur. Ce n'est pas la seule, je ne veux pas rentrer dans le champ inflammatoire ou hernie discale qui sont des lombalgies spécifiques. Dans le cas de la lombalgie commune, un des grands facteurs, c'est la raideur. Et donc l'image, c'est pourquoi c'est raide et cette image du portail qu'on explique parfois aux patients, pourquoi votre portail ne s'ouvre pas. Premier cas qui nous intéressera peu aujourd'hui, c'est le cas où il y a un défaut de commande. La commande ne marche pas bien, mais ça, c'est plutôt des cas neurologiques, type paraplégie ou hémiplégie. Ça ne nous concerne pas dans le cas précisé. Deuxième idée, les gonds du portail, les charnières, sont complètement grippées. Et à ce moment-là, votre moteur a beau bien marcher, votre portail ne s'ouvre pas. C'est justement l'image des petites articulaires postérieures qui peuvent avoir un défaut de mouvement pour X raisons et qui fait que ça a du mal à bouger. Troisième cas, le muscle, le moteur est un peu grippé, le moteur a du mal à fonctionner correctement ou au contraire, il est un peu trop court, toujours un peu contracté, potentiellement en lien avec le stress. Et du coup, mon portail a encore du mal à bouger. Eh bien, sur ces deux cas, et articulaires et musculaires, finalement, le kinésithérapeute peut agir et va pouvoir, par des mobilisations ou par des étirements musculaires ou par du renforcement, amener une solution éventuellement à un patient une fois que le diagnostic de départ est bien posé.
On va voir qui ? On va voir un kiné, on va voir un ostéo, on va voir un chiropracteur, on va voir un masseur. Il y a plein de gens qu'on peut aller voir, mais comment être sûr que c'est la bonne personne ?
On ne peut jamais être sûr. C'est le premier point. Malheureusement, désolé, messieurs, dames.
C'est le bouche à oreille.
Le premier point, effectivement, on a vu son généraliste au départ qui a envoyé chez quelqu'un. Qui peut déjà être une histoire de conseil et de réseau et de travailler avec des gens en confiance. Deuxièmement, le deuxième professionnel de santé qui doit être consulté, c'est le kinésithérapeute qui est, dans toutes les professions que vous avez citées, le masseur kinésithérapeute avec le médecin et le seul professionnel de santé. Après, il y a des ostéopathes. J'ai la double compétence d'être kiné et ostéopathe, que l'on peut aller voir, que l'on peut aller voir éventuellement en direct, là avec des niveaux très variables. Je ne suis incapable de vous dire quel sera un bon ou un mauvais ostéopathe.
Vous n'avez pas du tout parlé de chiropracteur, hein ?
Non. C'est une autre c'est une autre spécialité beaucoup moins développée en France que dans d'autres pays, qui a aujourd'hui depuis 2011 de mémoire une validation et un niveau d'études cohérent et une prise en charge cohérente. Donc je ne dirais de mal ni des ostéos ni des chiropracteurs, mais voilà, je resterai aujourd'hui dans le réseau classique et dans le groupe de travail de la CNAM, étaient présents et des médecins et des kinés.
Qui veut dire que généralement, on va chez celui qui vous est recommandé par son médecin généraliste ou son rhumatologue.
Oui.
On va continuer à parler de mal de dos cet après-midi. On va dire quelle est la différence entre une lombalgie et un lumbago, par exemple. Et surtout, on va voir, en parlant de lombalgie, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cela ne devienne chronique.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
On retrouve nos deux invités, le docteur Florian Bailly, je vais y arriver, médecin rhumatologue, spécialiste de la douleur. Également avec nous, Xavier Dufour, kinésithérapeute. La différence entre lombalgie et lumbago, c'est quoi ? C'est une lombalgie qui a mal tourné ?
Alors, le lombalgie, c'est le mot que le médecin en général va utiliser. Le lumbago, ce qui sous-entend un peu lombalgie aiguë, c'est le terme qui est plus utilisé par les non-médecins, entre
Donc
guillemets.
Donc c'est juste
entre...
la douleur qui fait la différence.
Alors non, dans les deux cas, il y a de la douleur au niveau du dos. Après, c'est juste qu'on se fait un lumbago, c'est ce que les gens en général se disent. Après, le médecin parle de lombalgie aiguë ou de lombalgie chronique, si elle est chronique, si les douleurs persistent au bout d'un certain temps.
Le grand changement de cette campagne, c'est qu'on nous dit que maintenant, le meilleur des traitements, c'est le mouvement. Alors qu'avant, on nous disait, restez calme, restez couché chez vous, ça va passer tout seul et tout. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on s'est dit qu'il fallait bouger, Xavier Dufour ?
Eh bien, ce qu'on se disait tout à l'heure, finalement, déjà au XXe siècle, on disait aux gens de ne pas bouger, on leur a dit de ne pas bouger, ils ont continué à ne pas bouger, ils ont toujours mal au dos. Donc il y a un moment, on se dit, il va peut-être falloir faire autre chose, et notamment le mouvement. Des études menées maintenant dans d'autres pays, je pense à l'Australie entre autres, Nouvelle-Zélande, Angleterre, où on a favorisé le mouvement et on a montré qu'en favorisant le mouvement, on réduisait quand même une partie, pas tous, mais une partie des risques de chronicité. Et donc il y avait moins de gens qui passaient à la chronicité quand on les faisait bouger que quand on leur disait de ne pas bouger. Pas bouger, c'est typiquement le meilleur moyen de s'enraidir et de perdre sa musculature. Et donc les deux meilleures raisons de devenir lombalgique chronique.
Et pour autant, quand on a mal au dos, c'est pas évident de suivre les conseils de quelqu'un qui vous dit qu'il faut bouger, qu'il faut faire de l'exercice physique. On a mal.
Alors à nous, en particulier kinés, dont je rappelle étymologiquement kinésithérapie, c'est thérapie du mouvement. À nous kinés d'être les experts du mouvement et de trouver la préférence directionnelle, c'est-à-dire le mouvement qui améliore les gens. Alors peut-être pas sur le premier mouvement, mais où dans la répétition du mouvement et dans le fait de pouvoir en faire plusieurs et de leur en faire faire, ils vont réussir à améliorer leurs symptômes. Et quand on montre à un patient que de faire tel mouvement de manière régulière dans sa journée, ça lui permet d'améliorer son symptôme et en particulier sa douleur qui est la raison de sa venue chez nous, eh bien je vous promets qu'il le fait et que parfois il revient à la séance d'après en nous disant « Vous m'avez dit d'en faire 5 séries, j'en ai fait 8 parce que comme ça me fait du bien à chaque fois, je continue à le faire. »
Pourquoi est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que ça fait du bien parce que le muscle devient chaud ou le muscle est plus tonique ?
Alors, il peut y avoir une part avec le muscle qui va être plus solide, entre guillemets, mais il y a aussi le fait d'avoir moins... En fait, quand on a une douleur aiguë, le muscle, il peut être parfois contracturé, il peut être bloqué. Et donc, il ne bouge plus, effectivement. Et donc, le fait de pouvoir rebouger les muscles, ça va permettre de les détendre aussi de les renforcer, mais c'est pas juste une question de renforcement, hein. C'est aussi de pouvoir... bouger et d'assouplir un peu le dos également.
Mais là, on est dans la prévention, on est dans le traitement quand on a mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir et ce qui correspond, vous me dites, à peu près à 80% des patients qui viennent chez vous, dans votre cabinet de kiné, est-ce que quand ils ont vraiment mal, vous leur faites déjà de l'exercice physique à ce moment-là? Ou est-ce que vous leur dites, attendez, prenez déjà des antidouleurs et dès que vous aurez un peu moins mal, je vais vous faire des exercices pour le dos?
Eh bien, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent leur traitement médicamenteux. Et c'est là où, justement, on travaille main dans la main avec les médecins et où on est en bonne intelligence. S'il y a une part inflammatoire, il faut prendre ce traitement anti-inflammatoire. S'il y a une douleur vraiment importante, le traitement antidouleur va être utile. Et nous, pendant ce temps-là, on peut trouver le bon mouvement. J'ai revu un de mes patients que je n'avais pas vu depuis 8 ans cette semaine et qui me dit « Je reviens chez vous parce que première fois que je suis venu, je ne pouvais pas bouger. Vous m'avez dit, allez, on va faire des mouvements. Vous m'avez fait faire des mouvements. » Il me dit, mais au bout de 2 séances, j'avais plus de douleur. Donc vraiment, le mouvement est un traitement en soi. C'est là où, effectivement, il faut toute l'expertise du kiné pour pouvoir trouver le bon mouvement. Il y a des mouvements que le patient fait tout seul. Il y a aussi plein de mouvements que nous lui appliquons, type étirement musculaire, type mobilisation spécifique. Je ne vais pas rentrer dans du détail technique, mais où le kiné travaille sur le dos du patient et en même temps, pas que cette rééducation qui est d'ordre passif, qui est peut-être parfois les 2 ou 3 premières séances, et dès ces premières séances, de pouvoir inviter le patient à trouver le mouvement qui lui fait du bien et à contrecarrer la sédentarité, qui est probablement le meilleur moyen de faire mal au dos des gens.
Et là, on est dans quelque chose qui pêche un peu, parce que là, si on était plus dans la prévention, c'est-à-dire que si on gardait de l'école les habitudes de faire un petit peu de gym toutes les semaines, on n'arriverait pas à l'âge adulte avec des problèmes de dos.
On est bien d'accord. Alors d'ailleurs, c'est un peu le gouvernement en place cherche à promouvoir la prévention. Ça n'a jamais été vraiment fait avant. Nous avons, nous, un programme d'école du dos en libéral qui cherche à apprendre aux gens et à prévenir finalement la lombalgie. Ce que mon collègue fait aussi à la Salpêtrière, hein, d'essayer de faire une forme de prévention d'école du dos, de rééducation plus large. Et l'idéal serait même de prévenir, c'est-à-dire d'agir avant que la douleur arrive.
Florian Bailly, vous, dans votre cabinet, en tant que médecin, il est dans quel état le dos de vos patients? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez vraiment hommes et femmes arriver avec une masse musculaire quasiment inexistante dans le dos, quoi? Est-ce que les muscles du dos sont les grands oubliés?
Alors non, pas du tout. Ils ont toujours leurs muscles dans le dos. Globalement, les gens, quand ils arrivent avec des douleurs, surtout quand ce sont des douleurs qui sont très importantes, ils sont aussi très inquiets en se disant, bah, effectivement, est-ce que mes muscles ne marchent plus? Est-ce que mon dos il est cassé? Est-ce que je n'ai pas quelque chose de coincé qu'il faut aller décoincer? Il y a souvent la question que les gens ne posent pas forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, aller opérer. Si j'ai très très mal, c'est que j'ai quelque chose qu'on doit aller opérer. C'est des choses que les gens se posent parce que les douleurs du dos parfois peuvent être très importantes. Mais pour autant, les muscles en général, ils sont présents. Les ligaments, le dos, il est solide, il reste solide. Mais par contre, il peut y avoir un blocage qui est fonctionnel que l'on peut améliorer. Par exemple, avec de la kinésithérapie, par exemple, avec le fait de faire des mouvements, on peut améliorer et globalement, on ne renforce pas un muscle en une ou deux séances de kinésithérapie, hein, mais vraiment, ça peut améliorer parce qu'on va redonner du mouvement à des muscles qui ne bougeaient plus, mais qui sont toujours là.
Dans un instant, on va continuer à parler des métiers à risque pour la lombalgie. Alors, on a tous l'image des déménageurs avec leur ceinture qui portent des poids, des charges très importantes et on se dit que ce sont eux qui sont les plus malmenés par la lombalgie. Eh bien, vous allez voir que pas du tout.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on parle du dos cet après-midi avec le docteur Florian Bailly, médecin rhumatologue, spécialiste de la douleur. On en parle également avec Xavier Dufour, kinésithérapeute. Alors, quels sont les métiers, quelles sont les professions les plus visées? C'est vrai qu'on pense tous que ce sont les déménageurs, parce que les pauvres, ils portent des charges qui sont hyper lourdes, sauf que eux, ils ont pris l'habitude et ils se protègent mieux que les autres. Xavier Dufour.
Statistiquement, les déménageurs n'ont pas plus de problèmes de dos que la population générale. Parce qu'ils ont une habitude, parce qu'ils ont une technique, parce qu'ils ont une musculature adaptée. Dans les populations qui reviennent fréquemment, par contre, on a tout ce qui est service à la personne, infirmière, aide-soignante, où là, on va vraiment avoir des taux d'accidents pour lombalgie bien plus importants.
Florian Bailly. Même constat. Est-ce qu'il y a d'autres
même constat,
métiers à risque?
Effectivement, les aides à la personne ou les aides à domicile aussi. Toutes les personnes qui viennent à domicile assister les personnes âgées, par exemple, avec des choses qui sont moins organisées ou qui sont difficiles à mettre en place, par exemple, pour déplacer quelqu'un. C'est des gens qui ont fréquemment des douleurs au niveau du dos parce qu'ils sont moins habitués et qui parfois ont besoin de beaucoup de plus de prise en charge. C'est assez fréquent maintenant.
Dans toutes les professions, on reste debout. Par exemple, un salon de coiffure où vous avez une coiffeuse qui est debout et qui en plus est un peu penchée vers sa cliente. Ou encore esthéticienne, tous ces métiers où on est debout, est-ce que là, on a des risques de lombalgie? Est-ce que le dos souffre?
Alors,
Florian Bailly.
Globalement, il y a des risques d'avoir des douleurs au niveau du dos chez tout le monde, y compris lorsqu'on n'est pas debout. C'est-à-dire que fréquemment, il y a beaucoup, par exemple, une secrétaire qui va être assise toute la journée. Justement, on parlait de sédentarité. Une secrétaire qui est assise toute la journée peut tout à fait avoir des douleurs au niveau du dos. C'est pas forcément uniquement le fait d'être debout, le fait d'être sédentaire ou de pas beaucoup bouger est un facteur de risque de lombalgie. Et donc, c'est pas uniquement les gens qui sont debout.
On parlait des déménageurs. La plupart du temps, quand on les voit, ils ont pris la précaution de prendre une ceinture. Est-ce que pour quelqu'un qui va avoir à porter des choses, ou est-ce que c'est utile?
Ça peut être une très bonne chose à deux, trois conditions. Pas tout le temps. Pas du 1er janvier au 31 décembre et pas du lever au coucher. Maintenant, vous êtes lombalgique, un peu de temps en temps, vous savez que vous avez que la ceinture vous améliore, vous sentez que vous êtes un peu fragile, n'hésitez pas à la mettre. Deuxièmement, vous avez une activité vraiment hors norme à faire, un déménagement, un Paris-Marseille en voiture, vous savez que c'est des situations où vous êtes fragile, mettez la ceinture. On a même montré, c'est pour ça que les déménageurs en mettent parfois, que la ceinture pouvait améliorer le port de charge, c'est-à-dire pouvoir porter un petit peu plus lourd grâce à la ceinture. Maintenant, il serait illogique de dire de mettre une ceinture chez tout le monde en prévention. Ça, ça n'a pas de sens. Et même d'un point de vue médical, on a montré des effets variables, parfois bien, parfois moins bien, mais sûrement parce que l'origine de la lombalgie est vraiment multifactorielle et du coup difficile de trouver une solution qui marche bien chez tout le monde.
Une bonne ceinture ne remplace pas de bons muscles du dos qui vont tenir le dos. Non. Alors le problème du muscle, c'est que ça prend du temps à les fabriquer, à les entretenir, et qu'en revanche, dès qu'on est immobilisé, la fonte musculaire, c'est spectaculaire pour les jambes. On a l'impression que des muscles qui ne travaillent pas vont fondre à toute vitesse. Est-ce que les muscles du dos, c'est pareil? Ou est-ce qu'ils résistent plus?
Alors, en moyenne, pour les jambes, oui, c'est 25% en 4 jours. Pour le dos, c'est un peu moins rapide. En même temps, parce qu'on est rarement totalement immobilisé aussi. Hein. Mais avec une idée forte, qui est que l'on perd beaucoup plus les muscles du dos que les abdominaux. Globalement, on perd peu d'abdominaux et on perd les muscles du dos. Sur les abdominaux, on gagne même un petit peu de gras parfois. Et le groupe musculaire a travaillé par-dessus tout, avant tout et en priorité et plus fort, vous voyez, j'insiste un peu lourdement, mais ce sont les muscles de votre dos, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de vous redresser et de vous tenir droit. Et c'est en ce sens où la sédentarité, que vous soyez toujours assis ou toujours debout, n'est pas une bonne chose, mais être toujours assis est probablement pire que d'être toujours debout.
Préventivement, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice tout simple à la maison ?
Tout bête.
Allez-y,
je vais
tout
en donner deux. Vous vous mettez allongé sur votre lit ou la table ou par terre, peu importe, hein, et vous décollez très légèrement les pieds, les genoux et les mains de la table. Ça, ça va vous permettre de travailler les muscles de votre dos sans aucune difficulté. Vous tenez une vingtaine de secondes, puis vous relâchez, vous reposez. Vous faites ça 5 minutes par jour.
C'est-à-dire que vous vous mettez sur le ventre ?
Oui.
Et vous décollez donc
On appelle ça Superman. Le slip rouge n'est pas obligatoire. Vous mettez sur le ventre et vous décollez très légèrement les pieds, les genoux et les mains de la table. Mais vraiment à peine.
Et on tient la position pendant combien de temps ?
Une quinzaine, vingtaine de secondes, puis vous reposez un peu, puis vous recommencez.
Ça, c'est du gainage ?
C'est une forme de gainage, oui.
Deuxième exercice.
Qui va vraiment travailler les muscles du dos. Si je devais en donner un autre, sujet debout, vous mettez les mains dans le dos. Et vous allez avancer un petit peu le bassin en même temps que vous reculez un tout petit peu les épaules.
Alors, attendez.
Je la refais.
Oui, allez-y.
Vous mettez debout.
On est debout. On est appuyé sur rien.
Debout.
On est au milieu d'une pièce.
Voilà,
debout.
Pieds joints. Enfin, pas tout à fait joints, écartés
normalement. La largeur des hanches.
Voilà. Vous mettez vos mains dans le dos, juste au-dessus de la ceinture du pantalon.
Et les mains, vous les mettez comment ? Ah oui,
à plat.
À plat sur
plat,
votre dos.
Qui tiennent votre dos. Et là, vous allez avancer très légèrement votre bassin, tout en reculant un petit peu vos épaules. Ça, ça va permettre de lutter contre ce que vous faites toute la journée, Isabelle. Vous êtes assise une grande partie de la journée, c'est-à-dire dans de l'enroulement. Et finalement, notre système du fin du 20e et début du 21e siècle, c'est l'informatique. Et on est assis une grande partie de la journée sédentaire, 8 heures par jour, derrière notre petit écran. On est très heureux de le regarder, mais on n'en bouge pas. Et quand vous vous relevez à la fin de la journée, oh que c'est dur de vous redresser, de pouvoir faire ce petit mouvement tout bête, en allant à la machine à café, en allant à la photocopieuse, ou machin, va vous permettre de lutter contre votre raideur naturelle qui s'installe et de pouvoir faire en sorte que ça, justement, ça ne devienne pas une lombalgie et surtout derrière que ça ne devienne pas chronique.
Si on fait des étirements comme ça, Florian Bailly, si on fait des étirements comme ça tous les jours, est-ce que on va garder la même taille du coup ? Est-ce que le fait qu'on se tasse en vieillissant, c'est juste parce qu'on prend plus le temps de tirer les bras le plus haut possible vers le plafond ? Est-ce que l'étirement peut nous aider à conserver la même souplesse et la même taille ?
Alors, il n'y a pas de données sur le fait d'avoir fait ces exercices pendant des années et après savoir si on ne va pas perdre les centimètres, entre guillemets, lorsque l'on devient un peu plus vieux. Il n'y a pas de données exactes. Après, globalement, il y a un intérêt de toute façon d'avoir des activités physiques. Et là, on parlait de certains exercices qui sont bons pour le dos. Mais après, il faut bien voir aussi que de toute façon, avoir une activité physique, n'importe laquelle, globalement, n'importe laquelle, quand on a des douleurs au niveau du dos, le dos il est solide et donc on peut faire n'importe quelle activité physique. Et c'est important le plus important en général, c'est d'ailleurs même de pouvoir faire ce qui nous plaît. C'est-à-dire que c'est bien de faire des exercices, c'est bien de pouvoir faire tel exercice précisément, mais le meilleur exercice, c'est celui qui va nous plaire. Parce que c'est les exercices qu'on va pouvoir faire régulièrement, qui va entretenir la forme, qui va entretenir les muscles du dos, mais qui va aussi entretenir le cœur. Et si c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, on le fera régulièrement. Et c'est probablement ça la meilleure des préventions, c'est d'avoir une activité physique régulière, qui ne soit pas une punition, qui puisse être quelque chose qui nous donne envie aussi. L'activité physique est bien démontrée aussi, c'est bénéfique sur le moral également. On sait que ça fait du bien, donc que ça fasse du bien physiquement, moralement, c'est probablement la meilleure des choses à faire.
On va se retrouver dans un instant pour parler des gestes tout bêtes du quotidien qui nous aideraient à fortifier notre dos. A-t-on la bonne posture quand on est en voiture, quand on est dans les transports en commun, quand on est au bureau devant son ordi, vous venez d'en parler un petit peu, quand on est également un petit peu avachi parce que c'est la fin de la journée devant son poste de télé, il y a des petits trucs tout simple à peut-être changer et qui nous aiderait à conserver notre dos en parfait état. On en parle tout de suite après Marc Lavoine, Cœur de Pirate et Arthur H. Vivre ou ne pas vivre, on retrouve nos invités une dernière fois. La question, si on fait un sport, lequel on choisit? Est-ce qu'on nage? Est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on fait du vélo? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
là, c'est pour s'entretenir, hein. C'est là, pas c'est forcément quand on a mal.
Pour s'entretenir que l'on est mal au dos, ouais, ou que l'on n'est pas mal au dos. Globalement, le dos, comme ce qu'on a dit précédemment, le dos, il est solide. On peut globalement réaliser toutes les activités physiques que l'on souhaite. La meilleure des activités, c'est celle que l'on va pouvoir réaliser. Alors, en général, il faut le réaliser progressivement. Si on a mal au dos, si on a eu mal au dos, on ne va pas prendre quelque chose de très intensif d'un coup non plus. Il faut pouvoir faire les choses progressivement.
Mais vous, en tant que médecin, vous nous conseillez quoi?
Alors, globalement, effectivement, souvent, les choses comme la natation sont conseillées dans le sens où ça va remuscler les douleurs, ça va remuscler le dos. Mais en fait, il n'y a pas forcément la natation mieux que tel autre sport. Vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir.
Là, vous nous aidez pas quand même. Ce serait bien de nous dire, tiens, moi, je pense qu'idéalement, pour vous remettre en forme, ce serait la marche.
Alors, pour certaines personnes, ça va être la marche parce que ça va leur convenir. Mais d'autres personnes, ça va être le yoga parce que le yoga, par exemple, il y aura aussi un peu de relaxation et la relaxation fait aussi partie des choses qui sont utiles. Donc, pour certaines personnes, le yoga sera très bien. Pour d'autres personnes, la marche ou la natation. Donc, c'est indépendant. C'est pour chacun. Et ce qui nous fait plaisir, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est très important.
Xavier Dufour, vous, en fait, c'est l'idée, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de s'écouter soi-même et qu'on remette un peu de bon sens par-dessus tout ça.
Rabelais, 1495, un esprit sain dans un corps sain. Les maux de dos, au sens large, c'est un facteur psychologique parfois, c'est un facteur mécanique beaucoup, c'est des fausses croyances par ailleurs. L'idée, c'est de trouver une notion d'équilibre. En faire du sport, faites le sport qui vous fait plaisir, peut-être pas trop, progressivement, comme vient de le dire Florian, c'est important d'y aller crescendo, de faire du sport, vous l'avez dit, pour s'entretenir et pas forcément pour une performance, et donc de faire les choses en bonne logique. Après, il n'y a pas de bon sport, il n'y a pas de mauvais sport. Ce qui est important, c'est que le patient aille bien, et pour qu'il aille bien et qu'il ne soit plus patient, globalement, c'est qu'il bouge. Parfois, il aura besoin du professionnel de santé au départ pour pouvoir le faire. Parfois, il arrivera à le faire et le but, c'est qu'il arrive à le faire après. On lui met le pied à l'étrier. Une fois qu'on lui a mis le pied à l'étrier, à lui de jouer, à lui de pouvoir s'éclater après.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour tout nous expliquer concernant donc cette nouvelle campagne de l'assurance maladie qui nous dit que qu'en cas de mal au dos, l'essentiel, c'est de bouger. Il y a un petit livre très bien fait qui est paru chez First, édition First, de Frédéric Sroor et Emmanuel Terrasse, même pas mal, le guide des bons gestes et des bonnes postures au quotidien. Merci à tous les deux et dans un instant, merci. C'est Anne Cazobon qui nous rejoint pour nous expliquer enfin ce qu'elle a fait de sa soirée du vendredi soir.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Avec elle, on termine cette émission en parlant de développement personnel grâce à sa chronique Antidote. Bonjour Anne Cazobon.
Namasté. Alors définitivement, le développement personnel est partout. Si, les enseignements, les leçons de vie sont tout autour de nous pour qui veut bien les voir. La preuve, vendredi soir, une amie chère m'avait invitée à un concert à l'Accord Hôtel Arena Bercy. Et pour être tout à fait franche, je ne m'attendais à rien. On sait ce que c'est, hein, les concerts des légendes de la musique. C'est souvent à double tranchant. On les a écoutés en boucle dans nos Discman à l'époque pendant des années et on a peur aujourd'hui d'être déçu, de constater qu'ils ont vieilli et que nous aussi par la même occasion parce que c'est un concert assis et que c'est vrai que parfois ces concerts nostalgiques font plus de mal que de bien. Mais c'était sans compter sur ce septuagénaire rondouillard, jovial et rieur, derrière ses lunettes à paillettes vertes, un peu serrées dans sa redingote à flamant rose, qui s'était lancé sur scène avec un plaisir non dissimulé, laissant ses petits doigts boudinés faire une promenade de santé sur l'immense piano à queue noire.
She packed my bags last night, pre-flight.
Devant nous, là, sur scène, celui que la reine avait anobli en 1998, le remerciant pour l'ensemble de son œuvre musicale, mais aussi pour sa participation à certaines œuvres de bienfaisance, j'ai nommé Sir Elton John. Cette chanson, c'est Rocketman, l'un des cartons de 1972. Des paroles écrites par Bernie Taupin qui décrivent les sentiments d'un astronaute qui part en mission dans l'espace, loin de sa famille. Un texte qui s'inspire d'une nouvelle de Ray Bradbury, l'homme de l'espace, Rocketman donc. Et sur l'écran géant, derrière Elton John, sont projetées des images de la planète Terre qui s'éloigne. Certainement ce qu'a vu Thomas Pesquet depuis son hublot en quittant le sol. Et ce qu'ignorent les 20 000 personnes qui chantent leur adolescence, les yeux dans les étoiles, la larme à l'œil et le briquet allumé à la main, c'est que nous sommes tous en train de vivre, par procuration, ce que l'on appelle l'overview effect, en bon français de France, la vue d'ensemble. C'est l'astronaute américain Ron Garan qui a fait un voyage sur la Station Spatiale Internationale en 2008 qui raconte que quand on regarde la Terre depuis l'espace, on y voit une planète incroyablement belle, qu'elle ressemble à un organisme vivant qui respire, mais à la fois, elle semble aussi très fragile. Cette expérience, qui n'a pas été donnée à vivre qu'à tout le monde et qu'à seulement quelques-uns d'entre nous, elle fait même l'objet de recherches tant elle pourrait changer la manière dont nous abordons la vie, le regard que nous posons sur les choses, le recul, le discernement dont cela pourrait nous doter. Les scientifiques parlent même d'épiphanie spirituelle, d'ouverture d'esprit. C'est vrai que de si haut, nos problèmes quotidiens, notre petit nombril, la haie du voisin qui n'est pas bien taillée, le collègue un peu colérique et névrosé, la panne générale de la SNCF, oui, plus grand chose n'a vraiment de prise sur nous, sur notre morale. Alors désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne plus vous laisser toucher par l'amorosité ambiante, pour ne plus vous laisser gangréner par les mauvaises ondes. Vous saurez quoi dire quand on vous demandera « Et toi, tu prends quoi pour aller mieux ?» La tête dans les étoiles ? Mais les pieds bien sur terre, vous pourrez répondre, eh bien moi, je prends de la distance.
Eh bien, ne vous éloignez pas trop quand même, puisqu'on compte sur vous demain dans La Vie Devant Soi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 15h pour parler d'un autre sujet, l'hypochondrie. La parole à ceux qui n'ont aucun symptôme, mais qui bien sûr pensent avoir toutes les maladies. Ça concerne quand même 8,5 millions de personnes, mais pas Thomas Touroud. Toujours en t-shirt et jamais malade.
Qu'en savez-vous ? Vous ne savez pas, parce que je suis peut-être complètement hypochondrique.
Ah non, mais vous avez un teint de rose. Non, il n'est jamais malade, jamais
c'est
malade.
Ça je concerne vais... Michel Drucker, en revanche. Je ne s'en cache pas.
Bah non, mais il ne veut même pas venir en parler.
C'est vrai.
Il a peur.
Vrai,
il a peur que ça le rende malade.
Bah nous, on va parler de foot, parce que ça ne rend pas malade le foot. Au contraire, ça nous permet de nous amuser pendant une heure tous les jours en votre compagnie. Il n'y a pas péno, le jeu de foot avec quelqu'un avec beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur. Donc, Didier Roustan, Julien Cazard et notre invité de comédien, Richard Anconina.